Bien le bonjour, vous écoutez Large, et ça ne vous aura pas échappé, les 15 et 22 mars prochains, vous êtes appelés aux urnes. Voter, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Les 15 et 22 mars prochains, ce sera les premiers et second tours des élections municipales. Scrutin important dans la vie locale, scrutin important car ce sera aussi l'occasion d'élire les conseillers communautaires pour Golf Morbihan Van Aglo. Sur la ville de Vannes, 6 listes engagées et Large, votre radio associative du Pays Vannetais, propose une série d'interviews pour mieux connaître les têtes de liste et surtout les différents programmes. Dans les studios de Large, pendant 45 minutes, François Rayou pour la liste Vannes Projet Citoyen. Bonjour François Rayou.
Bonjour.
Vous êtes jeune retraité, vous avez été directeur général des services dans une université parisienne.
Paris 1 Panthéon Sorbonne et Paris 8 Saint-Denis.
Jeune retraité qui est sur Vannes depuis combien de temps maintenant ?
Depuis un an, un peu plus d'un an.
Vous êtes de retour sur Vannes ?
De retour, puisque je suis vannetais depuis 1965.
François Rayou donc, qui est... Alors, est-ce que si je dis tête de liste, c'est le terme qui convient pour Vannes Projet Citoyen ?
Alors, c'est le terme juridique ou réglementaire, comme vous voulez, mais en réalité, pour ce qui concerne Vannes Projet Citoyen, on aura l'occasion de développer, mais c'est beaucoup plus quelqu'un qui anime un collectif et qui se veut l'incarnation d'un travail collectif qu'une tête de liste au sens de chef de parti ou garde-chiant de ce qu'il faut dire et pas dire. C'est donc un mot peu adapté, mais... qu'on est bien obligé d'adopter.
Est-ce que, François Rayou, vous avez été dans une vie antérieure ou il y a quelque temps, dans une autre vie, encarté et militant ?
Alors, j'ai été encarté, effectivement, pendant de nombreuses années au Parti Socialiste, que j'ai quitté à peu près au milieu du mandat de François Hollande, parce que, enfin, j'ai pas besoin de m'étendre, mais voilà. Et en arrivant à Vannes, j'ai monté, en tant que référent départemental, Place Publique, le mouvement qu'avait initié Raphaël Glucksmann, qui aujourd'hui, sur le plan national, n'a plus beaucoup d'activité, mais qui, en revanche, a infusé un certain esprit, une certaine conception de la vie politique, dont je me réclame toujours.
François Rayou, donc, qui représente la liste Vannes Projet Citoyen engagé aux élections municipales pour ces élections de mars 2020. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de ce collectif Vannes Projet Citoyen, puisque ce collectif a une petite histoire ?
Absolument. Vannes Projet Citoyen, c'est une association à l'origine qui s'est constituée en 2008 pour préparer les municipales de 2008 et qui a construit une méthode d'élaboration de ce qu'on est habitué à appeler un programme qui était beaucoup plus en réalité le recueil de propositions d'action auprès de la population en utilisant en particulier les réseaux sociaux. Et en 2008, Vannes Projet Citoyen a donc fait un score tout à fait impressionnant pour la ville de Vannes. Hein. On était, je crois qu'ils étaient à 23% au premier tour.
C'était à l'époque face au maire sortant et ministre François Goulard. Marion Lebert, si je ne dis pas de bêtises, menait cette liste VTC.
Absolument. Voilà. Ce mouvement s'est mis en sommeil, enfin a eu des conseillers municipaux. On en a encore une sur notre liste cette année, deux, puisque Sylvain Coquerel et Nadia Morel font partie de notre liste. 2014, tentative de recréation de Vannes Projet Citoyen qui, dans les 6 ans du mandat, avait explosé d'une certaine façon, Marion Lebert s'associant à la liste du Parti Socialiste et Sylvain Coquerel travaillant plutôt avec le Parti Communiste, etc. Le résultat de 2014 a été assez désastreux pour tout le monde, pour toute la gauche, en tout cas Vannetaise, puisque M. Robaud est passé au premier tour. Et Vannes Projet Citoyen s'est de nouveau remis en sommeil et s'est réveillé il y a maintenant un peu plus d'un an en reprenant les propositions qui avaient été stockés d'une certaine façon depuis 2008, en les réactivant et surtout en recommençant à consulter les Vannetais par voie des réseaux sociaux. Et on a eu au total pendant un an plus de 1500 réactions, ce qui est quand même tout à fait appréciable, ce qui nous a conduit à penser que c'était légitime de redémarrer la logique Vannes Projet Citoyen en appelant un maximum de citoyens à nous rejoindre. Et là-dessus, des militants du Parti communiste, des militants de Place Publique, des citoyens non encartés nous ont rejoints. Et on pourra revenir plus en détail sur les méthodes, mais voilà, l'historique est là.
Alors j'allais vous poser comme question, François Rayou, quelle est la couleur politique de cette liste VPC ? Mais vous venez juste de donner quelques réponses, enfin éléments de réponse du moins.
Alors clairement, c'est une liste qui se revendique de gauche. Si on utilise la terminologie préfectorale, on sera divers gauche. Mais c'est une liste qui, au-delà du clivage droite-gauche qui devient un peu compliqué à manier aujourd'hui, conceptuellement parlant, c'est une liste qui se revendique, alors non pas comme, je ne vais pas parler de mes adversaires, mais nous ne demandons pas d'alternance. Pour nous, la question n'est pas de changer les femmes et les hommes. Nous ne demandons pas de transition. Nous demandons, ou plus exactement, si nous demandons une transition, c'est une transition absolument radicale au regard des enjeux qui pèsent aujourd'hui sur le territoire vannetais. Enjeux qui font qu'on ne peut plus se contenter de demi-mesures ou de petits pas. On va le développer tout à l'heure, mais la crise environnementale, les inégalités sociales qui se sont considérablement aggravées ces 12 dernières années, méritent un traitement. Alors, qui ne peut qu'être qualifié de gauche, puisque la droite libérale n'a pas les solutions à ces problèmes, la preuve. Quand elle tente de réformer et met le pays dans la rue, nous pensons, nous, qu'il faut vraiment une transition radicale.
Alors, ce n'est pas le sujet, puisqu'on est là pour parler des municipales et notamment du programme des propositions de VPC, mais vous avez réagi, notamment VPC, il n'y a pas très longtemps, justement, sur cette réforme des retraites. Vous avez pris position.
Absolument, mais en lien complet avec les municipales, puisque cette réforme des retraites va générer, de notre point de vue, une aggravation des inégalités sociales dans ce pays. Et là-dessus, les municipalités et les communautés d'agglos sont au premier rang pour avoir à gérer ces situations. Et en l'occurrence, donc, il faut s'apprêter à encaisser et gérer les conséquences de cette aggravation des inégalités. C'est la raison pour laquelle nous avons pris position en disant que c'est une mesure qui nous paraît désastreuse au regard des problématiques d'inégalité sociale sur notre territoire.
Alors, Van Projet Citoyen promeut la démocratie directe. Comment étaient désignés les colistiers de cette...
Je vais répondre à votre question. Je reviens juste un petit peu en amont sur notre conception de la démocratie chez nous, au sein de notre groupe. L'idée est la suivante. Nous avons à prendre des décisions politiques pour les 6 ans du mandat. N'oublions jamais que le mandat va jusqu'en 2026. 2020-2026, c'est une période décisive si on veut sérieusement s'attaquer à la crise climatique et aux inégalités sociales. Mais à la crise climatique, hein, rappelez-vous, les échéances du GIEC, etc. Il faut donc prendre des décisions difficiles. Dans le domaine de la circulation, dans le domaine du logement, dans le domaine du développement ou du non-développement du tourisme. Bref, des décisions qui ne vont pas forcément toutes être très populaires ou qui, en tout cas, vont rencontrer des oppositions. Il est donc indispensable de construire ces décisions sur une vraie légitimité. Or, pas en même temps, effet de ciseau, les gens désertent les urnes. Aujourd'hui, 50% de nos concitoyens ne votent plus, pour faire parler en gros. C'est dramatique puisque nous avons besoin de légitimité. Et nous pensons, nous, que pour reconstruire cette légitimité, il faut aussi réinventer la démocratie. C'est la raison pour laquelle nous avons fonctionné pour préparer cette campagne selon des modalités très particulières que je vais juste vous présenter. Et nous souhaitons faire fonctionner la municipalité en 2020 parce qu'évidemment, nous gagnerons les élections d'une façon radicalement différente. Pour ce qui est de la campagne, première originalité, on a parlé de la tête de liste. Pour nous, elle a été désignée selon une procédure qui s'appelle l'élection sans candidat, c'est-à-dire que l'ensemble des gens qui suivent notre liste pouvaient désigner le candidat de leur souhait, sans qu'il y ait... Voilà. Et donc, un scrutin derrière, on l'a désigné. Les 6 suivants de liste ont été désignés selon la méthode connue Condorcet, c'est-à-dire qu'au lieu de dire de façon un peu autocratique, c'est un tel, une telle, un tel, une telle, on a là aussi fait voter les gens en leur demandant de les numéroter leurs candidats par ordre de préférence. Et enfin, pour le reste, les suivants, on a procédé à un tirage au sort. L'idée étant que jusqu'au bout, et c'est pour ça que ça a un peu agacé la presse locale, qu'on ne dévoile pas, et notre tête de liste, et nous, etc. Mais en réalité, c'est parce qu'on a voulu jusqu'au bout garder cette liste ouverte. Alors je rassure tous ceux qui s'inquiétaient un peu hypocritement pour nous, nous avons aujourd'hui une liste de 49 noms, nous avons construit nos 45 noms hier soir, c'est tout récent, et nous allons déposer notre liste cet après-midi. Donc je rassure ceux qui s'inquiétaient de savoir si VPC allait y aller. Mais voyez, c'est une forme de démocratie qui anticipe ce qu'on veut faire. Au niveau de la mairie, on peut le développer maintenant rapidement, mais nous on pense que, eu égard à la gravité des crises qui nous affectent, encore une fois, il faut un pouvoir légitime. Et la légitimité, on veut aller chercher chez les citoyens, et pas tous les 6 ans au moment des élections. C'est la raison pour laquelle on souhaite structurer l'action municipale autour de commissions extra-municipales, je reprends le vocabulaire existant, on pourra les appeler autrement, mais qui seront composées de citoyens volontaires. On ne désigne pas les citoyens, vient qui veut. En fonction du thème, on aura certainement une commission extra-municipale sur les déplacements, on aura une commission extra-municipale sur l'environnement, enfin je ne veux pas les énumérer. bien qui veut, participe à ces commissions, évidemment, des élus et des techniciens, des personnels techniques de la ville. Et ces commissions...
Ça, c'est important d'associer des citoyens et quand même des experts techniques.
Absolument, mais qui sont des outils, qui ne sont pas là, force de proposition, mais qui sont là pour étudier la faisabilité de ce qui se fait là. Et ces commissions extra-municipales auront des pouvoirs étendus, c'est-à-dire que toute délibération proposée par un conseil extra-municipal sur un sujet devra obligatoirement être examinée par le conseil municipal. Ces commissions extra-municipales auront également un pouvoir d'interpellation, c'est-à-dire que si le conseil municipal, à un moment donné, s'engage dans une voie donnée, un conseil peut parfaitement bloquer la délibération en demandant à ce qu'elle soit réexaminée. Et puis, ces conseils auront également un rôle d'évaluation des politiques, et pour ça, on leur fournira les moyens nécessaires, les chiffres, les experts, les études, et elles seront dotées de budget. Même chose pour les conseils de quartier.
Vous voulez qu'ils soient autonomes, les conseils de quartier ?
Nous souhaitons qu'ils soient constitués de façon, là aussi, ouverte. Ce n'est pas le maire, comme aujourd'hui, qui désigne les membres du conseil de quartier, puisqu'aujourd'hui, c'est le processus, mais ouvert à tout le monde, qu'ils aient une autonomie financière, un budget affecté, qu'on estime de l'ordre de 7% du budget de fonctionnement de la ville, et qu'ils aient une capacité d'initiative, c'est-à-dire qu'ils se saisissent des sujets qu'ils considèrent comme étant importants pour la vie du quartier. Et de la même manière, tout conseil de quartier aura la possibilité de soumettre des délibérations au conseil municipal qui sera obligé de les examiner.
En fait, on est un petit peu dans l'air du temps avec ce mouvement des Gilets jaunes et ce fameux RIC.
Ces conseils extra-municipaux, merci, auront également la faculté d'organiser des référendums d'initiative citoyenne, modulo un seuil, puisqu'on ne peut pas organiser un référendum sur tout et le contraire de tout et tous les deux jours, mais un seuil qui sera sans doute financier ou fondé sur des études d'impact, mais qui montre la transversalité du sujet. Mais il y aura bien effectivement l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas se contenter de la légitimité aujourd'hui un peu factice que procure l'élection, d'aller au-delà et de considérer que c'est tous les jours que les habitants des Levantais et les gens de l'agglomération sont des citoyens et que c'est tous les jours que se prennent des décisions qui vont nous affecter leur vie. Alors, on ne s'est pas en tant que tel inspiré des Gilets jaunes puisque cette philosophie de l'action politique préexistait aux Gilets jaunes. En revanche, on constate, nous avons dans notre liste, parmi nos colistiers, 5 Gilets jaunes qui nous ont rejoints sur ces bases-là. C'est le signe de quelque chose, quand même.
François Rioux, pour la liste Van Projet Citoyen. Petite question comme ça, histoire un peu d'illustrer cette campagne. Donc voilà, vous vous lancez avec vos colistiers dans la course au municipal à Vannes. Donc depuis combien de temps vous potassez vos propositions et votre programme collégialement ?
Voilà, alors le travail effectif de construction de cela a démarré à la fin de l'été dernier. La consultation, elle avait été engagée bien avant, mais le travail proprement dit de construction a démarré à la fin de l'été dernier avec 2 réunions hebdomadaires, là encore systématiquement élargies à tout citoyen souhaitant y participer. Et on a aujourd'hui, on le présentera vendredi soir, mais un programme très qui nous semble, nous, très cohérent, mais qui, encore une fois, nous paraît radicalement différent. Les apparences sont trompeuses, c'est-à-dire que l'ensemble des listes aujourd'hui sont appelées à formuler des propositions sur des sujets très variés, la circulation. Et du coup, il y a un effet, cette façon d'appréhender les choses, qui laisse à penser que tout le monde dit à peu près la même chose ou propose à peu près la même chose.
Ce qui n'est pas faux, quand on lit les professions de foi ou les programmes.
Alors, je prends un seul exemple qui est celui de l'environnement. Tout le monde parle d'augmenter le nombre de kilomètres de pistes cyclables, parle de planter des arbres, parle des menus bio, parle... Bien, très bien. On dit tous à peu près la même chose. Ce qui nous distingue radicalement des 5 autres listes, c'est que toutes ces mesures, Nicolas Hulot les avait chiffrées. Il appelle ça, lui, les mesures domestiques. C'est 10% du règlement de la crise climatique et environnementale. Les 90%, c'est de la politique publique. Ça veut dire que pour le Golfe du Morbihan, enfin pour Vannes et pour le territoire vannetais, il y a obligation de remettre en cause le modèle de développement économique du territoire qui est aujourd'hui fondé sur le tout-tourisme et l'attractivité, avec un raisonnement qu'on connaît déjà, qui est en gros celui du ruissellement. Si le territoire est attractif, ça profitera à tout le monde. Force est de constater que ça n'est absolument pas le cas. J'ai quitté Vannes pour mon boulot il y a une vingtaine d'années, mais j'ai suivi les choses de près. Mais en revenant il y a un an, j'ai été extrêmement frappé de l'aggravation des inégalités sociales, par exemple. 8000 habitants dans les quartiers où le taux de pauvreté est de 49%, il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. C'est considérable. Et c'est un effet direct de ce tout tourisme qui surenchérit les terrains, surenchérit les logements, massacre le golfe du Morbihan en transformant en espèce de luna parc maritime. Aujourd'hui, on est confronté à des chiffres extrêmement graves. Le niveau des eaux du golfe monte. Les chiffres de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne sont extrêmement inquiétants. 100% des mammifères marins sur le territoire sont aujourd'hui menacés. 60% en nombre d'espèces. Hein. 60% des oiseaux marins. 43% des nicheurs. 30% des papillons. C'est ça aujourd'hui le golfe du Morbihan. Est-ce qu'on peut continuer à y faire entrer 4000 bateaux la semaine du golfe pendant une semaine? Est-ce qu'on peut en permanence avoir 4000 cormorans? Est-ce qu'on peut, comme certains proposent, en rajouter en organisant un festival des plus belles baies du monde? Est-ce qu'on peut continuer à développer, c'était dans le projet Rive Gauche, de l'hôtellerie? Non, il faut arrêter tout ça. Et donc, on ne dit pas il faut arrêter le tourisme. On dit on arrête de l'aider. Et par contre, on met l'accent sur d'autres types d'activités économiques plus favorables au territoire d'ailleurs, parce que là on parle de la côte, mais il y a toute la problématique des communes tournées vers l'intérieur du pays.
Alors je vais, on va prendre les choses dans l'ordre avec ces thématiques, logement, tourisme, écologie, etc., etc. François Rioux, comment vous définiriez la ville de Vannes en quelques mots? Ses avantages, ses défauts, ses qualités. Donc là, vous l'avez dit, peut-être une ville victime de son succès.
Alors, c'est effectivement une formule qu'on peut utiliser, sauf que ce succès, il a été construit en partie. Et c'est là qu'on a un problème. Vannes a des atouts naturels. Le golfe du Morbihan, le patrimoine historique de la ville, l'engagement des citoyens sur le territoire, qui, la richesse de la vie associative en témoigne tous les jours. Donc, a des atouts naturels. Nous, on pense qu'il ne faut pas aller au-delà de ces atouts naturels, parce qu'on dépasse les capacités d'accueil de ce territoire. Donc, la formule que vous venez d'utiliser, moi, j'y souscris. Je dirais aussi que c'est une ville et un territoire à la croisée des chemins. Je l'ai dit tout à l'heure, le mandat qui se dessine, c'est 2020-2026. Les politiques qu'il est urgent de mettre en œuvre, si elles ne sont pas mises en œuvre lors de ce mandat, 2026, ça sera trop tard pour un certain nombre de sujets. Et donc, avant de voter, on appelle les citoyens à bien réfléchir. Et on pourrait trouver d'autres formules, mais ces deux formules-là me paraissent assez bien caractérisées. Et puis, pardon, je rajouterai quand même une troisième formule. Vannes est également une ville où, et je ne fais pas le procès, soyons clairs, moi je ne fais pas de l'anti-robot, de l'anti-lemaître, mais c'est une ville qui souffre d'un fort déficit démocratique. Il y a un vrai contraste entre la richesse de la vie associative dont je viens de parler et la faible participation des citoyens à la vie de la ville, enfin de la commune. C'est frappant.
Vous n'êtes pas là pour faire le procès de David Robot, mais quel est le bilan que vous pouvez faire de la majorité sortante?
Bien, le bilan, je vais vous dire, je bannis le paradoxe, hein, il est excellent. David Robot est un libéral, il a fait du libéralisme. En l'occurrence, en faisant confiance au monde de l'entreprise, aux intérêts privés, et en faisant le pari que dès lors qu'on satisfait les besoins d'une entreprise ou d'un entrepreneur, on satisfait la population. Donc, en ce sens-là, il y a trois choses qu'il n'a pas fait, mais c'est logique. Il ne s'est pas réellement attaqué aux inégalités sociales. Le chiffre que j'énonçais tout à l'heure, ça aggrave la situation. Il n'a pas promis de reprendre en main l'urbanisme en laissant la main aux promoteurs immobiliers, qui aujourd'hui investissent les secteurs les plus attractifs de la ville. Et puis, il n'avait pas promis de s'attaquer au désastre environnemental. C'est tout récent, son intérêt pour l'environnement, et il ne l'a pas fait non plus. Donc, son bilan est bon. Pour nous, il est catastrophique, parce qu'il n'a pas pris en compte la réalité des problèmes posés. Ne prenons que l'exemple de l'urbanisme. Depuis 2014, depuis la loi Allure, les maires et les communautés d'agglos ont la possibilité d'installer des établissements fonciers solidaires. Depuis 2014. Eh bien, ici, communauté d'agglos, on a décidé de mettre le sujet à l'étude pour une éventuelle mise en œuvre de l'établissement foncier en 2022.
Alors concrètement, ça sert à quoi un établissement foncier?
Ça sert à la collectivité publique à préempter l'acquisition d'un certain nombre de terrains et à émettre des normes très précises sur ce qu'on va y construire. Et ça permet ensuite de mettre à la vente des logements, par exemple, où les gens achètent l'appartement, si on parle d'appartement, sans être propriétaire du terrain. La ville ou la communauté d'agglo restant propriétaire du terrain, ce qui bloque tout effet spéculatif. C'est ce que vient de faire la ville de Paris, et ça a des effets tout à fait spectaculaires. Ça n'a pas été fait. Et là-dessus, c'est le bilan de M. Robaud, mais c'est aussi le bilan de la communauté d'agglomération. Et je regrette, moi, que la gauche ventaise se soit aveuglée en s'associant à M. Le Baudeau et en s'interdisant de promouvoir ce type de politique. En réalité, sur le territoire, les documents de programmation sont à reprendre de A à Z. Je parle du SCOT, schéma de cohérence territoriale, je parle du plan de déplacement urbain, je parle du plan local de l'urbanisme, je parle du plan local de l'habitat. Tous ces documents contractuels pluriannuels passent pour nous, font d'excellents diagnostics, mais passent complètement à côté des solutions. Il faut donc les reprendre proposer de nouvelles politiques en la matière.
On va dans quelques instants se faire une petite pause musicale, un choix donc de François Rioux de la liste Van Projet Citoyen. Avant cette pause musicale, cette question, selon vous, est-ce qu'il est possible de faire basculer Van à gauche puisque la cité des Venettes a toujours été gérée par la droite ?
Alors, petit rectificatif, à la Libération, pendant quelques mois, une équipe
quelques
de gauche...
Quelques mois.
Ça n'a duré que quelques mois, je vous le concède. Je pense, moi, que, encore une fois, la perception de plus en plus aiguë qu'ont nos citoyens des graves deux crises environnementales qui affectent notre communauté, la crise environnementale et la crise sociale, enfin, les inégalités sociales, doivent conduire les 50% d'électeurs qui aujourd'hui ne votent plus à revenir vers les urnes. Et si on est capable d'expliquer de manière suffisamment convaincante que faire de la politique, ça peut permettre de changer les choses, mais avec de nouvelles méthodes, celles que nous adoptons nous, alors oui, rien n'est écrit, et après tout, pourquoi pas, Van passant à gauche, c'est possible.
On va s'écouter I am the walrus. C'est, ça veut dire quoi, walrus, vous savez?
Combattant, c'est ça, non?
C'est quoi?
Combattant, non?
Je me demande si c'est pas un phoque, moi.
Ah, bon, peut-être. Mais vous savez, moi, mon anglais...
Aussi mauvais que le mien.
Oui, oui.
I am the walrus, les Beatles, Paul, Ringo, John et...
Ringo.
Smoke is, don't you think the joker lies to you?
Je suis le Morse, I am the Walrus, les Beatles en pause musicale dans cette émission politique. Nous parlons des élections municipales, ce sera les 15 et 22 mars prochains. François Rioux qui représente la liste Van Projet Citoyen dans les studios de Large. Rebonjour François.
Rebonjour.
Après donc cette pause musicale, on va aborder un peu les thématiques de cette campagne municipale vantaise avec des gros dossiers. On va commencer par celui, on va dire, le plus spectaculaire, celui qui gangrène la cité des Venettes. On passe à la télé à cause de ça, à cause de ces trafics dans les quartiers Minimur et Carcado, trafics en tout genre. Quelle est la position de VPC ? Vous pratiquez l'angélisme, la politique de l'autruche ?
Pas vraiment. Je vais commencer par. Nous avons commencé par relever un paradoxe qui va peut-être agacer certains, mais tant pis. On a d'un côté des habitants de Ménimur, non identifiés, et curieusement pas à Carcado, qui rivalisent d'imagination en matière de moyens de communication pour interpeller les pouvoirs publics sur l'insécurité liée au trafic de drogue. Et puis de l'autre, on a des habitants qui récemment ont été interrogés par la presse locale et qui disent de façon assez unanime qu'ils se sentent en sécurité dans leur quartier et même plutôt bien s'il n'y avait pas, et ils parlent, eux, d'incivilité. Bon, il y a donc un petit paradoxe et moi je serais très intéressé de savoir qui est derrière ces campagnes, qui sont les gens derrière ces campagnes de communication. Ceci étant mis de côté.
Quelqu'un de la radio, excusez-moi François, une bénévole qui a voulu faire des micro-trottoirs. Elle a été notamment à Carcado et a branché les gens sur ce dossier de l'insécurité. Oui. Et finalement, il y a très peu de personnes, enfin même quasiment de personnes qui a dit qu'ils se sentaient en insécurité.
Ça confirme tout
à fait. C'est pas scientifique, mais.
Non, mais ça confirme tout à fait l'impression qu'on a. Alors, nous pensons qu'il faut absolument distinguer deux aspects. Il y a ce qu'on appelle la lutte contre le trafic de drogue. Et ça, soyons clairs, c'est la mission de la police nationale et ça n'est que la mission de la police nationale. Ça n'est pas la mission du maire. Rien n'interdit au maire de tout faire pour que les moyens dédiés à ce service public qu'est la police nationale soient à la hauteur des besoins, mais ça n'est pas le travail du maire. Et donc, que le maire installe des caméras, qu'il renforce les effectifs de la police municipale, nous, c'est clairement non. En tout cas, pas pour ça. Installer des caméras, d'autant plus quand on les fait payer par Van Golf Habitat, l'office HLM, qui a peut-être autre chose à faire avec son argent que d'installer des caméras de vidéosurveillance.
En sachant qu'en plus, les dealers se déplacent de quelques dizaines de mètres.
Totalement inefficace. Et donc, par contre, ce qui relève de la compétence du maire, c'est tout ce qui renvoie aux conditions de la vie quotidienne. À mon avis, un travail efficace sur les inégalités sociales telles qu'elles peuvent exister dans ces quartiers doit permettre de faire disparaître, ou en tout cas de réduire considérablement, ce que nous appelons, nous, le trafic domestique. C'est-à-dire, et il est réel, celui du gamin qui guette ou qui deal pour remplir le frigo de la maman. Le jour où le frigo de la maman est rempli et où le logement est agréable et où on a de l'activité, on peut faire le pari que ce trafic domestique diminuera. S'il ne reste plus que le trafic professionnel, la police travaille. Et sur ce point, nous pensons, nous, indispensable de rendre aux habitants, alors de Carcado, de Ménimur, mais de Condo, de la Bourdonnais, la dignité à laquelle ils ont tous droit. Et pour ce faire, on souhaite réimplanter les services publics sans être méchant, mais d'astucieux gestionnaires qui, en fait, ont souvent été contraints de faire des économies de gestion, ont cru opportun de déménager à La Roiseau, par exemple. Aujourd'hui, une maman de plusieurs enfants qui a besoin d'avoir affaire aux services sociaux, laisse ses gosses dans l'appart, elle prend le bus à des heures et elle va à La Roiseau. Bon, nous voulons les réimplanter dans le quartier. Et de la même façon, nous voulons installer au pied des immeubles des agents formés à la médiation sociale et au soutien des familles. Et puis, nous voulons aider Van Golf Habitat à déployer des équipes mobiles de maintenance immobilière qui fassent qu'on ne reste pas 3 jours sans ascenseur, 2 jours sans électricité, 3 jours sans chauffage. Là-dessus, les habitants de Carcado et de Ménimur nous ont donné beaucoup d'exemples de dysfonctionnements graves. Et on arrêtera de demander à Van Golf Habitat, je le disais, de payer les caméras de vidéosurveillance que le maire veut installer mais ne veut pas payer. Bon. Et enfin, nous on pense que quand on parle de sécurité à Vannes, immédiatement on pense trafic de drogue. Il y a un autre sujet quand même, et je pense beaucoup plus grave en termes de sécurité, c'est le sort réservé aux cyclistes et aux piétons sur les voies de circulation. Et quand je dis ça, c'est pas de la provocation, c'est pas une plaisanterie. L'insécurité aujourd'hui, elle affecte certainement beaucoup plus ses usagers de la ville que le trafic de drogue n'affecte les habitants de Carcado et de Ménimur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas solidaire des gens qui souffrent de ces trafics. Ça veut dire qu'on souhaite le ramener à de justes proportions et s'attaquer aux causes du phénomène. Ce n'est pas de l'angélisme. C'est une recherche d'efficacité, puisque les méthodes actuelles, la police, ont démontré leur inefficacité.
Quelle serait alors une action, des actions municipales possibles à mettre en place pour que les jeunes des quartiers fassent autre chose que de dealer ?
Eh bien, nous pensons-nous que la ville là-dessus doit reprendre ses missions aujourd'hui, une bonne partie de l'action en faveur de la jeunesse, et concéder de façon tacite aux associations. La vie associative, on y est, c'est notre origine, c'est notre ADN, donc là-dessus. Ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs municipaux se sont déchargés d'une partie de leur mission sur ces associations. Et ça, ça ne fonctionne plus. Il y a sur Carcado 3 assistantes sociales pour toute la population. C'est ridicule. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que la ville, à travers la médiation familiale, à travers de la réimplantation, y compris de services municipaux, mais avec des gens, des fonctionnaires, pas des bénévoles, réinvestissent tout ce qui permet aux jeunes. Prenez l'exemple de Carcado. Aujourd'hui, un môme qui veut jouer au foot à Carcado n'a pas à portée de main de terrain. Il faut, par exemple, sur Carcado, déplacer, non pas le renommer, comme certains le proposent, mais déplacer. On a une zone verte qui s'appelle le Vallon, qui est en périphérie complète du quartier. Faisons une zone verte et des services publics au cœur, sur place de Cuxhaven. C'est là le centre de Carcado. C'est pas là où il y a le bistrot et la boulangerie. C'est à ce niveau-là. Et ça, associons les habitants à la reconstruction d'un véritable centre et qui donnera à Carcado une vraie allure, non pas de quartier au sens péjoratif du terme, mais de village.
Est-ce que la municipalité, que ce soit celle de Vannes ou ailleurs, a les moyens de pression sur l'État pour que l'État remette ses services publics disparus là où ils étaient
Eh bien, nous, on fait ce pari. Il faudra certainement... Alors là, c'est un autre sujet qu'on aura du mal à aborder ce matin, mais il faut de toute façon réorienter complètement le budget municipal. Précisément, toutes les dépenses qui sont liées au tourisme, à la promotion immobilière, à l'événementiel, etc. Il faut mettre un frein à ça et réinvestir cet argent. Il y a aussi tout un sujet autour de la fiscalité, mais je l'aborde par là. Là-dessus, après, c'est un dialogue avec l'État. Et dès lors que la ville est capable de faire valoir des priorités argumentées, je ne doute pas que l'État ne l'entende pas. Vous savez que sur Carcado, la ville de Vannes n'a même pas sollicité les fonds disponibles de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Ils ont été sollicités pour Ménilmur et pas pour Carcado. Pourquoi ? Donc il y a vraiment, encore faut-il, construire un projet cohérent et argumenté.
François Rioux de la liste Vannes Projet Citoyen vient donc de parler des incivilités, de la sécurité sur Vannes. Autre sujet majeur de cette campagne pour les municipales, eh bien, c'est tout ce qui concerne les modes de déplacement, puisque Vannes, victime de son succès, connaît depuis maintenant plusieurs mois un sacré embouteillage aux heures de pointe, que ce soit en périphérie, certains ronds-points, en centre-ville. Comment on peut agir ? On interdit purement et simplement les voitures ?
Alors, ce sujet est tout à fait emblématique de ce que nous avons évoqué tout à l'heure en termes d'environnement. Aujourd'hui, nos adversaires, néanmoins collègues, rivalisent d'imagination quant au nombre de kilomètres de pistes cyclables à créer, quant au nombre d'arbres qu'il faut planter, quant aux solutions de stationnement qu'il faut proposer ou quant à l'énergie de propulsion des véhicules publics. Bon. Nous pensons que toutes ces solutions ne sont pas inutiles, mais ne sont pas à la hauteur du problème. Vannes est devenu un cul-de-sac pour les automobilistes. Et le plan historique de Vannes ne permet pas d'offrir des solutions satisfaisantes. Pendant longtemps, pour la vie de tous les jours, la voiture a été une solution. Aujourd'hui, elle est un problème. Par ailleurs, les attentes des usagers sont contradictoires entre elles. Les commerçants du centre-ville veulent des places de stationnement, qu'on ne sait plus où installer. Les salariés travaillant en centre-ville obligés d'habiter en périphérie parce que le logement est inaccessible à Vannes, également veulent des places de stationnement. En revanche, les habitants du centre-ville se plaignent de ne pas pouvoir circuler parce que embouteillage, parce que pas de stationnement, enfin, etc. etc. C'est vraiment les contradictions. Alors, si on y rajoute que les cyclistes et les piétons demandent, eux, à se déplacer en toute sécurité, et ça, c'est remis en cause par le trop de voitures, on est conduit à dire que sans engager la guerre aux automobilistes, c'est un peu le procès qu'on nous fait aujourd'hui, vous faites la guerre aux automobilistes. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un automobiliste. Ce que je connais, c'est des citoyens qui ont besoin de se déplacer sur le territoire urbain d'un point A à un point B. Et la voiture, encore une fois, a été une solution et ne l'est plus aujourd'hui. Donc, nous ne faisons pas de la guerre aux automobilistes. Par contre, nous considérons inévitable de revoir la totalité du plan de développement urbain. C'est un des documents de programmation totalement insuffisant que j'évoquais tout à l'heure. Pour faire du centre-ville, je vais utiliser un euphémisme, une zone d'inconfort pour la voiture. D'inconfort pour la voiture et, à contrario, une zone de confort pour tous les autres modes de déplacement. Ça suppose que nous ouvrions des aires de stationnement aux entrées principales de la ville, sur la base desquelles nous offrons des services, le départ des bus, mais avec des locaux aménagés pour attendre confortablement, des ateliers relais pour les cyclistes, des dispositifs de location de vélos, des mises à disposition d'équipements pour les cyclistes, pour les piétons, etc. Et que nous proposions, en matière de transport en commun, une fréquence de circulation beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. En gros, aux heures où les gens ont le plus besoin, on va dire 7h30, 10h du matin, un bus en permanence, enfin, au moins toutes les 10 minutes. C'est en tout cas ce que relèvent les techniciens. Donc des bus cadencés circulant en ville en voie propre de manière systématique. Nous n'avons aucun état d'âme à dire que la route de Conlo ou le boulevard de la Paix doivent disposer d'un couloir central où deux bus se croisent. Et les voitures, c'est sur le côté et sur une voie très étroite. Et puis, donc des bus cadencés, des bus qui circulent en voie propre, des pistes cyclables protégées de façon systématique, des relais vélos dans plusieurs endroits de la ville. Encore une fois, pour faire en sorte que rouler en voiture devienne inconfortable, que se déplacer à pied, en vélo ou prendre le bus devienne confortable. Et là, on fait le pari que les usagers comprendront l'intérêt qu'ils ont à garer leur voiture en arrivant le matin sur un parking protégé. Stationnement en échange de quoi ils reçoivent un ticket qui leur donne accès aux transports en commun pour la journée et qui leur permettent d'être à l'heure à leur rendez-vous, au bon endroit, au bon moment. Mais ce n'est donc pas la guerre aux automobilistes. C'est qu'aujourd'hui, on est dos au mur. Et je rajoute qu'à cette dimension, la dimension environnementale, évidemment. On ne peut plus accepter qu'aujourd'hui, 40 000 voitures rentrent en ville tous les jours depuis le nord de la ville, pour ne parler que du nord. En pollution, en bitumage, en perte de zones naturelles, les effets sont désastreux.
C'est un peu comme faire rentrer un éléphant dans une cabine téléphonique.
Je n'ai pas osé reprendre la formule, mais bon.
Parce que c'est une formule que vous avez utilisée et qui a été reprise dans la presse. Donc les déplacements, bah oui, les places de stationnement, les pistes cyclables, c'est un sujet qui parle aux Vannetais. Mais la politique de transport est compétence de l'agglomération et c'est aussi, entre guillemets, une proposition récurrente qui séduit beaucoup de candidats, c'est la fameuse gratuité des bus. Est-ce que c'est possible ? VPC propose quelque chose dans la matière, mais...
Voilà. Alors, nous proposons la gratuité des bus, effectivement. Je ne suis pas sûr que ça soit l'argument décisif pour convaincre les gens de prendre le bus. Ça ne peut être présenté que comme une mesure parmi toutes celles que je viens d'énumérer. Bon, en revanche, ça nous paraît économiquement parfaitement soutenable. Ça a été démontré ailleurs et on peut démontrer que... Alors, il y a un petit aspect choquant dans cette gratuité, c'est qu'au fond, on l'offre y compris à des gens qui n'en ont pas besoin parce qu'ils ont les revenus largement suffisants pour. C'est tout à fait vrai. Il y a forcément obligation d'inciter les gens. Encore une fois, en mettant en place un service confortable, de qualité, répondant aux attentes, mais la gratuité fait aussi partie des arguments. Et après tout, cette gratuité serait compensée par des dépenses qu'on n'aura plus à faire. L'entretien des parkings, l'entretien des voiries, il y a un certain nombre de dépenses qui de fait disparaissent et qui nous paraissent pouvoir financer cette gratuité.
On va changer de thématique puisque le temps passe, le temps file. On va donc, c'est toujours plus ou moins la même thématique, l'écologie, les transports, la pollution, etc. etc. On peut énumérer les propositions de VPC, le bio dans les cantines auprès de maraîchers locaux.
Absolument. Alors, en l'occurrence, oui, on a parlé tout à l'heure du changement de modèle, de paradigme économique. Le bio dans les cantines, c'est à la fois une question de santé publique, hein, mais c'est au-delà de ça quelque chose qui a à voir avec le développement économique. C'est-à-dire que nous souhaitons, nous... arrêter l'artificialisation des sols en privilégiant l'implantation de producteurs de produits bio, maraîchage, etc. En faire bénéficier les usagers des cantines, et là c'est une question de santé publique, mais au-delà, c'est une façon de faire valoir que le territoire peut développer des activités économiques autres que le tourisme qu'on évoquait tout à l'heure. Et après tout, personne ne nous interdit d'utiliser l'intelligence collective. Nous avons la chance d'avoir sur notre territoire une université, Bretagne Sud, je dis bien une et pas deux, puisque Pour moi, l'UCO n'est pas une université, juridiquement parlant, on ne peut pas s'appeler comme ça. Ça, c'était le petit coup de pied là. Donc, nous avons une université avec des chercheurs, avec des jeunes formés qui travaillent sur les matériaux composites, qui travaillent sur les aménagements ruraux, qui travaillent... Profitons de cette intelligence collective. Et le bio s'inscrit dans cette dimension. Ça n'est pas donc que la dimension santé publique. Il y a aussi une dimension économique.
Dans cette catégorie écologie, restaurer les sept rivières vannetaises, elles sont en mauvaise santé. Les rivières vannetaises. Sept rivières vannetaises. Alors, je n'ai pas les noms devant.
Elles sont en mauvaise santé, d'une part. Et d'autre part, elles ne sont pas suffisamment valorisées. Ici aussi, par le biais de la remise en état des sept rivières vannetaises, on réoffre du végétal et de l'espace vert aux urbains, aux habitants. Ça aussi, ça suppose un autre plan d'urbanisation, un autre plan local d'urbanisation que celui qui aujourd'hui, paradoxe quand même, permet à Giboire de transformer l'île de Berder en un vaste complexe hôtelier. C'est hallucinant qu'un PLU laisse passer une chose pareille aujourd'hui en 2020. Compte tenu de ce qu'on connaît. Et bien les rivières, ça participe de cette volonté de reconstruire la ville autour de ces problématiques environnementales.
VPC qui propose aussi l'installation dans les espaces verts de parcs potagers, de vergers associatifs.
Oui, tout à fait. On va même un peu plus loin. Alors après, il faut voir si techniquement c'est possible. Mais tout ce qui aujourd'hui est utilisé précisément pour la circulation automobile, les ronds-points, doit pouvoir... Alors, vous voyez, là, le travail qu'on attend des conseils de quartier, faire l'objet de revégétalisation. Nous, l'objectif, c'est tout mètre carré débitumisé sera un acquis pour l'ensemble de la collectivité. Et là-dessus, les conseils de quartier auront, à nos yeux, un rôle fondamental. Nous ne sommes pas des techniciens et nous ne sommes pas des experts de tout. Là, on attend beaucoup l'intelligence des habitants. Mais ça, effectivement, c'est une option qu'on proposera.
Quel est le point commun, François Rioux, entre l'ancienne fac de droit rue de la Loi, le Greta, l'ancienne clinique, le château de l'Hermine? Quel est le point commun?
Alors, le point commun, c'est que tout ça constitue le patrimoine commun. Si vous savez, le patrimoine, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine. C'est une formule qui n'est pas de nous, hein, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Là aussi, nous attendons des conseils extra-municipaux, des conseils de quartier, des propositions de réutilisation, mais pour le collectif, pour l'intérêt général.
Ce sont des bâtiments qui sont vides.
Ce sont des bâtiments qui sont vides. Alors, en particulier, sur ces bâtiments vides, d'une part, je vous dis, nous attendons donc des propositions des habitants, mais encore une fois, pour des utilisations qui répondent à l'intérêt général. Et, particularité de notre programme, nous souhaiterions que Vannes devienne une ville d'accueil. Les migrants, les gens en grande souffrance doivent pouvoir, en ville et pas en périphérie, trouver des solutions d'accueil. Vannes, c'est quand même la ville où on est obligé de lancer une pétition pour sortir un monsieur qui, depuis des jours et des jours, vit dans des toilettes publiques. Alors, nous avions un centre d'accueil avenue Victor Hugo, il a été fermé. Aujourd'hui, le seul centre d'accueil qu'ils se sont trouvés, c'est les toilettes de la gare, dont on leur interdit en plus l'accès. Là aussi, les bâtiments, vous parlez du Greta, vous parlez du bâtiment désaffecté de l'hôpital, pourraient être des lieux d'accueil pour le problème terrible des femmes victimes de violences conjugales, des migrants. Vannes doit devenir non pas l'accueil du touriste qui gagne plus de 50 000 euros par an, mais également de tous ces gens-là.
Parmi un sujet aussi important, et puis ce sera d'ailleurs un des derniers sujets qu'on va aborder, puisque cette émission touche à sa fin, c'est le fameux projet Rive Gauche. Le maire sortant a mis ce dossier entre parenthèses pour qu'il ne parasite pas les élections municipales. Qu'est-ce que VPC a l'intention de faire de cette Rive Gauche? On laisse en l'état actuel, on autorise les promoteurs à bétonner à 0 € pour le contribuable?
Alors, on est tout à fait satisfait de la décision du maire, de M. Robaud, d'avoir gelé. Je crois que c'est une décision intelligente que nous saluons. En revanche, le lycée promoteur, votre question a déjà sa réponse. C'est hors de question, évidemment. Et voilà typiquement le sujet sur lequel nous souhaitons donc que la ville reprenne ses fonctions de maître d'ouvrage en matière d'urbanisme. Mais là aussi, on souhaite travailler avec les citoyens, là aussi avec l'intelligence collective, sur la base d'un certain nombre de principes quand même. Premièrement, en l'occurrence, sur cette zone, nous ne voulons pas d'établissement, d'activités commerciales dédiées au tourisme. Je l'ai suffisamment développé, c'est hors de question. Il nous paraît délicat, à cet endroit de proposer du logement. Nous souhaitons, nous, en faire véritablement une zone dédiée à aux problématiques environnementales dont on a évoqué tout à l'heure, et affectée à des services publics. Affectée à des services publics, quitte à ce que d'ailleurs ces services publics soient plus orientés vers les activités culturelles, par exemple, puisque c'est un lieu qui s'y prête bien, et que ce lieu soit ouvert à tous les 20 ans, qu'on arrête de dire il y a le quartier de Kercado, le quartier de Ménimur, le port, etc. Les gens de Kercado, les habitants de Kercado, les habitants de Ménimur, les habitants de Conlot doivent aussi investir cette zone. Ce qui ne sera pas possible si on l'affecte, encore une fois, au tout tourisme et au tout hôtelier. Donc, service public, espace vert et ouverture maximum à la population. Mais là, les conseils de quartier vont avoir aussi un rôle tout à fait important à jouer.
François Rioux, merci d'avoir accepté cette invitation. Ces 45 minutes sont passées à une vitesse grand V. Deux petites questions pour terminer cette interview. Si je les retrouve, bien entendu, mais tant pis. Si je les retrouvais, est-ce que la liste VPC pourrait s'allier, le cas échéant, au second tour avec une autre liste ? Et si oui, laquelle ?
Alors, c'est effectivement une question à laquelle on est régulièrement confronté. Pour nous, c'est extrêmement simple. Je crois avoir expliqué pendant ces 45 minutes quelle était notre spécificité, en quoi, malgré l'apparente homogénéité des propositions des uns et des autres, nous sommes radicalement différents. Et par conséquent, évidemment, il est hors de question d'imaginer une fusion, ni avec M. Robaud, ni avec M. Lemestre, ni d'ailleurs, je suis désolé de le dire, avec la liste de M. Barayek, qui vient de dire qu'il soutenait un candidat Debout la France à Pleu Hermel. Pour nous, c'est rédhibitoire.
Debout qui la était France. D'ailleurs membre de VPC en 2008.
C'est bien peu. Barayek. Oui. Absolument. Oui. Mais les gens ont le droit d'évoluer. Ceci dit, le soutien à Debout la France, pour nous, c'est bon. Bref, donc. La seule hypothèse de fusion, c'est avec la liste de Simon Huzenat. Et en l'occurrence, nous, si Simon Huzenat nous rejoint sur le dispositif ou la construction d'une nouvelle démocratie en ville, qu'il renonce à décider de la manière dont la liste est menée, tête de liste, composition de la liste, et qu'il ouvre la discussion sur tous ces sujets, une fusion sera envisageable. Malheureusement, dire à M. Huzenat en 24 heures, vous abandonnez votre composition de liste et vous remettez tout sur le chantier avec les méthodes de VPC et vous adoptez la volonté de transformation radicale qu'on a évoquée, c'est assez peu crédible. Mais bon.
François Rioux, passionné, passionnant, donc pour cette interview consacrée aux élections municipales. Alors n'oubliez pas de vous rendre aux urnes le 15 mars pour le premier tour de cette élection. Comment dire, quel score sera un succès pour VPC ?
Ah, clairement, nous avions de l'ambition de siéger au conseil municipal. Donc tout chiffre au-dessus de 10% des suffrages exprimés sera bon. Après, évidemment, dans un monde idéal, nous aimerions bien dépasser les 20%, mais l'objectif, c'est d'être au-dessus de 10% pour avoir des sièges.
Est-ce que vous avez en tête votre site internet pour qu'on voit la profession de foi, les propositions ? Alors rassurez-vous, c'est facile dans le moteur de recherche. Tiens, d'ailleurs, il y a des propositions de VPC concernant tout ce qui est open source, logiciel
et
libre, etc.
Et la dégafamisation de tous les produits utilisés par la collectivité, absolument.
Donc je n'ai pas nommé le moteur de recherche, mais vous pouvez taper VPC 2020 municipal et vous tomberez sur le site internet avec le détail des propositions. Merci François Rioux.
Je vous en prie.
Et à bientôt sur Large.
Oui.